Je vais vous présenter nos trois intervenants. Donc, à ma gauche, Céline Lechaud, qui est la coordinatrice du plan lecture de la Bibliothèque municipale de Lyon, de Lille, et qui fait donc partie de l'équipe de la Bibliothèque municipale de Lille, qui a travaillé antérieurement d'ailleurs à l'UFM de Lille. C'est pas anodin par rapport à ce qu'elle va nous présenter. Et qui va nous permettre de voir la formation tout au long de la vie sous l'angle sous lequel on ne pense jamais à la voir, c'est-à-dire le début de la vie. Ensuite, nous aurons Angé de la BPI qui est à ma droite, qui nous parlera du célébrissime service d'auto-formation de la BPI. Mais comme tout ce qui est célèbre, c'est peut-être un grand méconnu. Donc, l'organisation du congrès a jugé à juste titre, à mon avis, qu'il était indispensable d'aller voir de plus près. Et enfin, nous aurons Pierre-Yves Cachard, le directeur de la BU du Havre, qui nous parlera de la formation tout au long de la vie, du point de vue des bibliothèques universitaires. Comme ça, pour ceux qui étaient à l'Assemblée Générale hier, ça les rassurera sur, j'espère en tout cas, sur la place des bibliothèques universitaires dans les débats de l'ABF et sur l'articulation justement entre les débats concernant les bibliothèques universitaires et la lecture publique, puisque le Havre est aussi une de ces villes où il y a quand même des liens très forts entre les deux secteurs. On le dit jamais assez. Mais,
à ce stade de la matinée, je ne sais pas encore si ça va les rassurer.
Mais si, t'inquiète pas. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole à Céline, qui va nous présenter cette initiative tout à fait originale de la ville de Lille.
Bonjour. Donc je vais vous présenter ce qu'est le plan lecture à la ville de Lille. C'est un service qui permet de développer des bibliothèques dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. C'est une volonté politique. Alors attendez, hop, je reviens en arrière tout de suite. C'est une volonté politique. Le plan lecture fait partie du projet éducatif global qui a été mis en place en 2005 et qui a deux grandes missions. La première étant de permettre à chaque enfant d'accéder à une offre scolaire, culturelle, sportive et de loisirs variée et près de chez lui. Autrement dit, d'accéder à une offre riche pour tous les enfants lillois. La deuxième grande mission du PEG est de permettre à chaque enfant d'avoir les mêmes chances de réussir à l'école, mais également dans son épanouissement personnel. Donc c'est vraiment la réussite éducative sur tous les temps de l'enfant. Différents acteurs sur ce projet, les services éducatifs, sportifs, sociaux et culturels de la ville, les parents, les centres sociaux, les maisons de quartier, les associations, et bien sûr l'éducation nationale qui est un partenaire très privilégié pour nous au plan lecture. Le PEG se décline notamment en différents plans thématiques qui sont à chaque fois portés par les structures municipales. En l'occurrence, ici, le plan lecture est porté par la Bibliothèque municipale de Lille. Le but étant de toucher tous les enfants par le biais de l'école et de les amener vers ces structures spécialisées. Alors, si on a un peu de temps après, j'ai une petite vidéo qui présente le PEG et qui montre assez bien tout ce qui se fait dans ce cadre-là, sur la ville de Lille. On verra à la fin de la présentation. On rentre un peu plus dans le vif du sujet. Le plan lecture a débuté en 2005. Le but était de valoriser la littérature jeunesse au sein de l'école en temps scolaire et en temps péri- et extrascolaire. Donc, dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, évidemment, ce n'est pas nous qui apprenons à lire aux enfants, mais on donne des outils, en l'occurrence des BCD avec des livres de littérature jeunesse, etc., aux enseignants pour qu'ils puissent permettre aux enfants d'acquérir cette culture-là. Et aussi, sur le temps péri et extrascolaire, donner cette idée de lecture-plaisir. Voilà. Le plan lecture rentre également dans le schéma développement des bibliothèques de Lille. La ville de Lille est découpée en 10 quartiers. 8 quartiers sont équipés d'une bibliothèque de quartier. Nous avons également un bibliobus. Et chaque école maternelle et élémentaire de la ville possède une BCD. Ce qui représente quand même 83 écoles maternelles et élémentaires, 5 écoles spécialisées, ce qui fait 12 500 élèves et 570 enseignants. Vaste projet. Pour vous expliquer la façon dont a été mené le plan lecture au début, donc il a été mis en place au début du PEG en 2005 par un état des lieux dans chaque école, à savoir est-ce que chaque école avait une BCD, est-ce qu'elle était éloignée ou non de la bibliothèque municipale, est-ce qu'elle s'y rendait régulièrement, est-ce qu'il y avait des activités lecture ou autour du livre au sein de l'école, etc. Cet état des lieux nous a permis de planifier un plan d'action qui a été validé par les élus et donc nous a permis de faire un ordre de priorité pour commencer à doter chacune des écoles. Et puis nous avons recruté progressivement des assistants de conservation pour permettre d'avoir une équipe tous spécialistes en littérature de jeunesse. Entre 2008 et 2010, c'est la deuxième phase du plan lecture, l'équipe est installée. Et ça nous a permis donc de mettre en place des instances de décision comme des comités de pilotage, de répartir l'équipe sur les différents quartiers de la ville pour que chaque enfant puisse repérer le référent du plan lecture sur son quartier, à la fois dans son école, mais aussi dans la bibliothèque de son quartier. Et puis, on a mis aussi en place des outils d'aide à la gestion des lieux des BCD, comme des listes de codes validés, des mémos sur l'informatisation, etc., puisque nous ne sommes pas assez nombreux pour intervenir de façon très régulière dans chacune des BCD. Et donc, l'idée, c'est de créer une dynamique dans chacune des écoles et puis qu'après, elles puissent être autonomes dans la gestion de ce lieu. Depuis 2012, le plan lecture a intégré un nouveau service à la bibliothèque municipale, un service qui est dédié aux écoles et qui regroupe le préoclasse, le bibliobus, l'accueil de classe dans les bibliothèques et donc ce plan lecture. Donc le préoclasse, ça permet à chaque enseignant d'avoir un pack de livres livré à l'école et que l'on récupère après son projet au sein de l'école. Le bibliobus dessert les écoles qui sont trop éloignées de la bibliothèque de quartier ou pour les deux quartiers qui n'ont pas encore de bibliothèque, les accueils de classe de façon très classique. Et le plan lecture, c'est la bibliothèque hors les murs ou en tout cas à domicile dans l'école. Les moyens qui nous sont donnés pour arriver à développer ces BCD dans chacune des écoles publiques de la ville, une équipe de 9 personnes avec donc un poste de coordination, 5 assistants qui sont répartis sur les 10 quartiers de la ville de Lille, un assistant en charge de l'action culturelle pour des rencontres d'auteurs, d'illustrateurs, etc. Un agent qui est dédié à l'animation et puis une personne qui nous aide pour tout ce qui est équipement des ouvrages. Un budget plus que confortable, c'est là qu'on voit la vraie volonté politique. Entre 2006 et 2010, on a eu une enveloppe budgétaire de 290 000 euros qui était répartie de la sorte. 150 000 euros étaient dédiés à l'achat de livres pour doter les écoles. Donc entre 2006 et 2010, on a pu doter les 83 écoles de la ville de Lille. 50 000 euros étaient dédiés à l'achat de mobilier. Voilà, pour créer des vrais lieux bibliothèques avec des coins lecture-plaisir, des coins de travail, des coins écoute. 35 000 euros étaient dédiés à l'action culturelle pour faire donc venir des expositions, des auteurs, etc. Et puis nous avons 5 000 euros pour l'équipement des livres. Depuis 2011, notre budget a baissé puisque nous avons doté l'intégralité des écoles de la ville en livres et donc nous sommes passés maintenant sur un budget de fonctionnement pour faire des dotations complémentaires en fonction de projets, soit de la ville, soit de l'école. Si vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements sur Plan Lecture, je vous conseille d'aller sur le site du portail de l'éducation de la ville de Lille, qui a une page qui est dédiée au Plan Lecture et tout ce qu'on peut proposer à destination des enseignants. Quatre missions au Plan Lecture. D'abord la constitution des fonds, ensuite la gestion de ces lieux, notre troisième mission étant l'animation et l'action culturelle pour faire vivre ces lieux, notre dernière mission étant le lien que l'on peut tisser à la fois sur le quartier et avec les autres services de la bibliothèque municipale. Voilà, la constitution des fonds documentaires, on est une équipe de spécialistes en littérature de jeunesse, on travaille en étroite collaboration avec les enseignants pour constituer des fonds cohérents et en adéquation avec leur projet d'école et leurs souhaits. Et on est vraiment là pour essayer de leur proposer le meilleur de la production éditoriale jeunesse pour qu'ils puissent avoir un fonds varié et représentatif de l'édition actuelle. Nous avons doté chaque école de 5 livres par enfant scolarisé. Ça a été la dotation initiale. Et puis maintenant, nous sommes dans les dotations complémentaires sur projet. Notre deuxième mission étant la gestion, l'achat de mobilier et la préconisation de travaux. Ce que j'entends quand je parle de gestion des lieux, c'est ce que chacun de nous fait de façon très classique dans une bibliothèque. Nous le faisons dans les BCD, à savoir la cotation, l'informatisation, la couverture des livres. Et puis nous aidons toutes les équipes pédagogiques à mener une réflexion autour de l'utilisation des lieux BCD. N'ayant aucun personnel dédié à temps plein pour gérer chacune des BCD, il faut trouver des modes de gestion. Donc on les aide à réfléchir là-dessus. On est là également pour de la formation en littérature de jeunesse, de la formation sur, alors le catalogage est un bien grand mot, mais en tout cas sur l'informatisation. Voilà, on a un panel de formation selon les publics. L'achat de mobilier, on en a parlé déjà tout à l'heure, et on préconise des travaux, donc on travaille aussi en étroite relation avec les services techniques de la ville, etc. Voilà, pour arriver à des réalisations de ce type. Notre troisième mission, je la scinde en deux, c'est l'animation et l'action culturelle. Pour moi, l'animation, c'est vraiment quand l'équipe du plan lecture intervient autour du livre et de la lecture. L'action culturelle, c'est quand on arrive à faire venir des artistes pour des rencontres avec les enfants. Depuis 2012, on lance un appel à projet à destination des enseignants. Ça nous permet d'abord d'avoir une meilleure visibilité de nos actions envers les scolaires. Et puis, ça permet également une meilleure articulation de nos actions entre le plan lecture et les autres plans thématiques de la ville, et puis entre le plan lecture et les autres services de la bibliothèque. Voilà, pour essayer d'avoir un maillage le plus complet sur les écoles. Donc on anime des malles thématiques, des salons de lecture, des fêtes du livre, etc. L'action culturelle, donc c'est ce que je vous expliquais, rencontres d'artistes. Entre 2006 et 2011, on a eu la chance de bénéficier d'un CLEA, d'un contrat local d'éducation artistique, et donc d'avoir des subventions de la DRAC. Depuis 2012, ce n'est plus le cas. Et volonté politique encore, la ville de Lille a décidé de mettre une enveloppe complémentaire pour qu'on puisse continuer à bénéficier d'une enveloppe suffisamment importante pour faire bénéficier les enfants de rencontres de qualité. Donc on fait venir des auteurs pour des rencontres, on fait venir des artistes pour des ateliers, on fait venir des spectacles, etc. Voilà, tous les auteurs ne sont pas morts. Notre dernière mission, c'est le lien avec les autres services de la bibliothèque. Tous les mercredis après-midi, toute l'équipe fait du prêt du service public dans les bibliothèques de quartier pour que les enfants puissent nous retrouver aussi au sein de la bibliothèque. On monte pas mal de projets communs avec les autres services de la bibliothèque, comme la fête de la musique, le printemps des poètes et d'autres choses encore. Je suis allée un tout petit peu trop vite. Et puis on a un rôle vraiment de médiation, puisqu'on porte les couleurs, dirions-nous, de la bibliothèque hors les murs. Et donc, on essaye vraiment d'inciter les enfants à venir aussi à la bibliothèque hors temps scolaire, avec leurs parents. Donc pour nous, la formation tout au long de la vie, c'est dès le plus jeune âge. D'abord parce qu'on souhaite rendre l'enfant autonome dans le choix de ses lectures, dans l'utilisation des bibliothèques, et puis dans sa posture de lecteur. Ensuite, parce qu'on essaye de développer chez lui un sens critique aiguisé en mettant à disposition des ouvrages jeunesse variés. Enfin, on essaye que chaque enfant puisse acquérir une culture littéraire et artistique par le biais de l'action culturelle, lors des rencontres d'auteurs, des expositions, etc. Demain se termine une exposition qui s'appelle Momart, qui est le résultat de tout le travail d'une année, de toutes les classes de la ville de Lille, autour du fantastique. Donc c'est un projet Lille 3000, donc porté par la ville. Tous les enfants ont travaillé sur cette thématique-là, et une énorme exposition a lieu au Tripostal, c'est un lieu d'exposition de renom sur Lille, où il se passe vraiment de très belles expositions, et là c'est une exposition d'enfants. On a deux étages, 1500 mètres carrés, qui sont dédiés à cette exposition-là. Donc les enfants sont très fiers de montrer leur travail, et très fiers d'avoir travaillé aussi autour d'artistes de renom. Ai-je le temps de passer une petite vidéo ?
Absolument.
Alors, pour vous expliquer un peu en image ce qu'est le PEG à la ville de Lille, je vous propose une petite vidéo qui dure 6 minutes et qui est assez bien faite.
Que chaque enfant ait les mêmes chances à l'école et dans sa
ça
vie.
Ça ne passe pas. La ville de Lille a lancé son projet éducatif global. Que dois-je faire ?
Je préfère ça, moi, parce que être tout seul, j'aime pas.
Des fois, j'ai des surprises, je vois des enfants qui ont un comportement super à l'écoute dans l'orchestre, et puis je me rends compte en discutant avec les instits que, en fait, c'est un gamin en difficulté. Canaliser les énergies de chacun, en fait, c'est vraiment une histoire d'écoute.
On pourrait croire qu'en maternelle, on n'a pas besoin d'aide puisqu'on ne sait pas lire. Les enfants de 2 à 6 ans ont besoin du livre, ils ont besoin de l'objet, ils ont besoin de l'histoire, ils ont besoin du support et ils ont besoin d'une culture qui s'élargit.
Le petit chaperon rouge.
Aussi. Pourtant, c'est pas le même livre que les autres.
Non, parce qu'il y a le petit chaperon rouge, la reconnaît et le loup aussi.
Je pense qu'un objet livre n'est pas un objet anodin. C'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. Il ne dit pas « je suis le loup noir », il dit «
je suis le petit chaperon rouge. »
Vraiment essentiel de commencer petit. S'ils voient les adultes faire, vite, ils vont comprendre le sens des choses et faire aussi.
Elle a de la température, elle est certainement.
Voilà.
Grâce à le plan lecture, on a eu une dotation de 800 livres. Pas seulement, on a eu du mobilier, on a eu la réfection d'un lieu et donc la possibilité d'ouvrir ce que nous n'avions pas, une bibliothèque pour tous les enfants de l'école.
Est-ce que le loup a mangé le petit chaperon rouge ou pas ?
Cookies, American chocolate cookies with chocolate chips, you know, chocolate chips. So we are going to follow the recipe. Go on and mix, just mix.
J'accompagne mes enfants nous ça nous permet aussi en même temps d'apprendre un peu ce qu'on a appris quand on était plus jeune quoi. Et puis en même temps ça permet de voir ce qu'ils font.
To eat cereals.
Yes. Qu'ils apprennent à l'école, c'est les mots types et ils écrivent. que l'homme, elle le vive, quoi. C'est pas du tout pareil. Il y a déjeuner, les haricots rouges le matin, donc c'est une autre culture. Une fois que le déjeuner est préparé, on fait des ateliers. Donc il y a l'atelier cuisine, jeux de société. Et ordinateur. Internet, c'est pareil. Ils vont sur des sites anglais. L'apprentissage et la pratique, ils adorent.
Red is recording.
Ou sinon, je mets plus l'entrée des écoles. Non, moi, je ne donne pas mon sac et ma maison, puisque c'est mon habillé, mon sac et mon argent.
Le but, c'est de faire en sorte que ces enfants ne soient pas des consommateurs d'images, mais des producteurs critiques d'images. Il vaut mieux que la caméra cadre correctement plutôt que le plafond. Voilà. C'est dans le faire que finalement, ça s'apprend plutôt intuitivement.
Quand il choisit une image, quand il choisit un mouvement avec son crayon, il a toujours une raison de le faire.
Ils ont chacun été confrontés à deux points de vue d'artistes différents, qui ont montré soit des dessins, soit des vidéos.
Peut-être pas tant d'importance que ça, que ce soit un homme ou une femme. C'est surtout ce que ça provoque chez vous. Maintenant, on va peut-être passer à la réalisation de vos
dessins. Alors, viens dans ta chambre.
Maintenant.
Vas-y.
Le dispositif de réussite éducative vise à aider les enfants en fragilité ou en difficulté.
Elles sont tombées où ?
On a mis le doigt sur la fragilité ou les difficultés de l'enfant. Et en tout cas, une prise en charge est possible. Ma mission principale, c'est d'être garant du parcours de l'enfant et de sa famille.
Ça fait longtemps que je cherche quelqu'un de compétent pour s'occuper de Romain.
J'essaie d'affiner un peu le diagnostic de la situation de l'enfant avec les parents pour essayer de mettre en place les actions dans le cadre du parcours de réussite éducative.
Il vient à la maison voir Romain, demander comment ça se passe, si ça va à l'école, s'il a des soucis en plus.
Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne peut-être un rendez-vous mercredi après-midi, comme ça Romain sera là.
Je l'ai inscrit au judo, donc en espérant que ça va l'aider à s'extérioriser un petit peu plus.
Si cet enfant est plus ou moins inhibé, on peut également envisager une ouverture socioculturelle avec la famille.
Je suis toujours présente pour les devoirs pour Romain, mais je veux qu'il s'en sorte encore plus, donc je le booste un petit peu plus, lui, que ses frères et sœurs.
Vous me remettez tout en bas la tête, s'il te plaît ? Oui, ça fait quelque chose.
Il vaut mieux se sentir dans le groupe grâce à l'accompagnement personnalisé dont il aura bénéficié, qui n'est pas forcément possible dans une classe de 20 ou de 25.
Ils entendent
de l'Amérique.
We sing a song of freedom. A journey of freedom.
Fight against my loyalty. Fight against oppression. Everybody's an enemy. Everybody's an enemy.
Voilà pour la ville de Lille.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ait la discussion après les trois communications. Et donc, là, on fait une petite permutation. Et je demande à Pierre-Yves Cachard de prendre la suite.
Bien, bonjour à tous et toutes. Je remercie d'abord l'ABF de s'autoriser à une touche d'exotisme dans son congrès en invitant de temps en temps des représentants bibliothécaires universitaires, sachant que je fais partie des convaincus de longue date qu'il faut absolument rétablir des passerelles entre nos deux univers. Il se trouve que moi j'ai fait des allers-retours entre lecture publique, où j'ai exercé avec beaucoup de bonheur pendant 5 ans, et lecture universitaire. Donc Christophe l'a rappelé par ailleurs, le territoire du Havre est assez particulier et permet beaucoup de partenariats et de symbioses entre les équipements de lecture publique et l'équipement de lecture universitaire. Mais j'étais en fait très intéressé par l'invitation reçue. Alors pour autant, on ne se cache rien et on se dit tout. J'avais été initialement invité dans le cadre de cette session pour présenter un référentiel de compétences informationnelles, le voici, qui avait été réalisé par la commission permanente pédagogie universitaire et documentation de la DBU, dont j'avais la responsabilité à l'époque. Et quand j'ai eu confirmation de cette intervention, en fait, je me suis rendu compte que c'était une intervention qui s'inscrivait dans une session consacrée à la formation tout au long de la vie. Alors, j'avoue que dans un premier temps, j'ai eu un grand moment de solitude, en me demandant si j'allais pas être totalement hors sujet, voire hors piste. Alors, non pas que ce référentiel, et on y viendra, n'a pas de rapport avec la formation tout au long de la vie, il s'inscrit vraiment dans ce dispositif-là, mais pour moi, c'est une approche un peu réductrice par rapport à tous les enjeux qui gravitent autour de la formation tout au long de la vie pour les services documentaires des établissements d'enseignement supérieur. Donc, je prends le risque de quitter le chemin très balisé pour moi de ce référentiel pour essayer de vous isoler les différents paramètres que doivent désormais intégrer les bibliothèques universitaires pour s'inscrire durablement dans le paysage de la formation tout au long de la vie et pour évoluer à l'intérieur de leur mission initiale et de leur positionnement sur le territoire à la fois local et régional. Alors, la formation continue, par définition, c'est le secteur de la formation qui concerne ceux qui ont quitté la formation initiale. Et il se trouve que les universités représentent le dernier stade de la formation initiale. Si aujourd'hui la question de la formation tout au long de la vie, qui recouvre tout autant les dispositifs de formation continue, hein, des dispositifs qui comptent différents prestataires, dont les universités, donc tout autant la formation continue que l'auto-formation individuelle, si ça devient un enjeu pour les bibliothèques universitaires, pour moi c'est parce que le regard porté par les principaux financeurs et opérateurs de la formation continue, État, région, employeur, ont défini assez récemment finalement un continuum entre la formation initiale et la formation professionnelle, considérée dans les deux cas désormais comme non pas des moments de formation, mais des situations d'acquisition de compétences et incluant l'ensemble des étapes de la vie d'études et professionnelle du citoyen, y compris d'ailleurs l'orientation et l'insertion professionnelle. Alors, dans ce contexte-là, pour les bibliothèques universitaires, pour moi, il y a trois niveaux d'enjeux. Deux niveaux se situent à l'intérieur de la communauté universitaire. Premier enjeu, redéfinir les objectifs de nos formations documentaires pour les positionner dans un champ d'acquisition de compétences capitalisable pour un étudiant en situation professionnelle. Jusqu'ici, on va y venir, on a toujours considéré que la formation documentaire, elle était là pour favoriser la réussite des étudiants dans leur parcours d'études. Elle est toujours là pour ça, mais pas seulement. Et il faut, et c'est pas si simple que ça, repenser complètement la manière dont on inscrit la formation documentaire à l'intérieur des apprentissages de nos étudiants. Deuxième enjeu, et il est de taille, former les enseignants et les enseignants-chercheurs des universités à l'usage de la documentation dans leur pédagogie. L'objectif derrière ça étant de contribuer à faire évoluer le modèle pédagogique universitaire français, qui est, on peut dire, vétuste, et en tout cas totalement inadapté aux nouvelles caractéristiques des étudiants qui entrent en université, le faire évoluer vers une pédagogie plus active, favorisant une plus grande autonomie de l'étudiant dans ses apprentissages disciplinaires. Et puis, il y a un troisième enjeu que je situe à l'extérieur de la communauté universitaire, mais en fait, une partie des cibles de cet enjeu sont inscrits en université, mais ce sont pour autant des publics extérieurs. C'est développer et promouvoir une offre documentaire et une offre de service, l'un n'allant pas sans l'autre, à destination du public de la formation continue et des professionnels désireux d'adosser à leur pratique professionnelle une activité permanente d'auto-formation qui est souvent rendue indispensable aujourd'hui par les évolutions très fortes que vivent la plupart des métiers confrontés à la fois à la concurrence et à des mutations technologiques permanentes. Alors, on va balayer en fait ces trois enjeux un peu rapidement, je suis désolé parce que le timing est assez serré. Alors, au sein de la communauté universitaire, les enseignants, il y a actuellement une mise en place de ce qu'on appelle les ESP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qui va remplacer les IUFM. Et dans le cadre de cette mise en place, cela introduit explicitement la notion de formation tout au long de la vie pour les enseignants du supérieur. Alors, vous, ça vous paraît peut-être naturel, mais je vous assure que vu de l'université, c'est un choc culturel. Parce que dans l'enseignement supérieur français, la pédagogie, à la différence de la bicyclette, ça ne s'apprend pas. C'est inné et ça constitue une sorte de prolongement de l'intelligence disciplinaire. Donc les enseignants du supérieur, je le rappelle parce que c'est quand même assez ahurissant, sont les seuls enseignants à ne pas bénéficier d'une formation initiale à la pédagogie alors qu'ils ont une formation à la recherche. Alors il se trouve par ailleurs que l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur a fragilisé, et j'en suis le vivant exemple malheureusement, les finances de ces établissements et nécessite tout un tas de mesures de maîtrise des dépenses qui passent notamment par une réduction progressive du volume horaire des enseignements disciplinaires. Pour moi, c'est totalement impossible de résoudre ce curieux paradigme où on doit enseigner plus avec moins d'heures sans passer par un changement de pratique pour qu'une partie des apprentissages soit désormais réalisée par les étudiants eux-mêmes. C'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, une forme de pédagogie active, ce qu'on appelle les classes inversées, qui se rapproche en fait des modèles anglo-saxons et devront, que les enseignants le veuillent ou pas, parce que ce n'est pas si simple à faire progresser, devront s'appuyer fortement sur la documentation. Alors pour les bibliothèques universitaires, c'est vraiment un chantier à construire qui va nécessiter de mettre en œuvre en co-construction avec les enseignants, les services universitaires de pédagogie quand il y en a, ou les services de Ticketis, qui sont des services un petit peu plus technicistes, mais qui introduisent de la pédagogie universitaire dans leur pratique, de mettre en place des modules de formation disciplinaire dans lesquels la documentation sera largement mobilisée. Et avant cela, ça va imposer de positionner les bibliothèques universitaires comme des prestataires de formation pour les enseignants, avec une offre de formation aux outils et aux ressources documentaires qui s'inscrivent dans le plan de formation professionnelle des établissements. Donc pour nous, c'est complètement nouveau, c'est un nouveau public à former, qu'il faut d'abord apprivoiser, à dire vrai, avec des finalités pédagogiques qui nécessiteront également d'intégrer dans la formation initiale et continue de nos métiers un apprentissage de la pédagogie, parce qu'on est actuellement pas très bien armé pour construire des dispositifs de ce type. Alors, deuxième volet sur les enjeux de cette formation tout au long de la vie, les étudiants. Depuis la parution d'un nouvel arrêté licence en août 2011, la maîtrise de l'information est définie comme une compétence transversale à acquérir parallèlement à l'apprentissage disciplinaire. C'est une notion très importante dans un contexte où on sait qu'en France, les résultats des parcours étudiants dans les licences ne sont pas extraordinaires. Mon point de vue, qui est heureusement largement partagé au sein des professionnels de documentation universitaire, c'est que la maîtrise de l'information, ce n'est pas une matière théorique, ce n'est pas une discipline, et ça n'a de sens qu'inscrit dans un contexte disciplinaire. De la même manière, la documentation, ce n'est pas une fin en soi, elle a toujours un but, et donc l'enseignement documentaire doit veiller à rétablir dans son processus d'apprentissage ce qui précède la recherche documentaire, l'identification d'un besoin d'information. Ça paraît une évidence, mais quand on discute avec les enseignants aujourd'hui, ce qui les frappe, c'est que dans la nouvelle génération d'étudiants, Ça n'est pas si simple que ça de réaliser qu'on a un besoin d'information. C'est déjà une étape qui nécessite un apprentissage. Et puis également d'intégrer dedans ce qui motive cette recherche, à savoir au final la production de connaissances ou la communication scientifique. Alors à partir du moment où on aborde la formation comme un continuum qui part de la formation initiale mais qui se poursuit tout au long d'un exercice professionnel, la finalité de la formation documentaire ne peut plus se limiter à la réussite des étudiants. Pour moi, elle doit viser à une acquisition de compétences transposables en situation professionnelle. Par ailleurs, c'est aussi un facteur de motivation très important pour les étudiants, un moyen de les faire progresser vers une réelle autonomie dans l'acquisition des connaissances. Le problème, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais c'est que les dispositifs actuels de formation documentaire, tels qu'ils sont inscrits dans les maquettes des diplômes, que ce soit les unités d'enseignement de méthodologie du travail universitaire, qui envisagent trop souvent pour moi la documentation comme une discipline, que ce soit le dispositif de certification C2I, certificat informatique et Internet, qui lui réduit le champ d'intervention de la documentation aux seules ressources numériques. Pour moi, ces deux dispositifs sont inadaptés. Il faut absolument redéfinir nos objectifs de formation documentaire et s'appuyer sur un outil centré sur les compétences qui rende plus facilement l'apprentissage adaptable au-delà du périmètre de la formation initiale et donc en situation professionnelle. Donc c'est dans cet esprit que la DBU a souhaité doter les établissements d'enseignement supérieur d'un référentiel de compétences informationnelles inspiré d'un certain nombre de référentiels très concrets et efficaces produits par des pays anglo-saxons et s'appuyant sur les préconisations du ministère et du comité licence dans le cadre de l'arrêté licence d'août 2011, puisqu'il faut savoir que parallèlement au travail mené par l'Association des directeurs et personnels de direction de bibliothèques universitaires, donc la DBU, le ministère a lancé un certain nombre de chantiers avec des enseignants experts de leur discipline pour produire comme ça un certain nombre de référentiels disciplinaires définissant les objectifs de formation à partir d'une approche par compétences. Alors, sur ce schéma-là, je vous l'ai mis parce que ça permet de bien positionner la relation qu'il y a entre un référentiel de compétences et la problématique de la formation tout au long de la vie. Les compétences informationnelles, elles englobent l'apprentissage en autonomie, elles permettent l'autonomie dans l'apprentissage et du coup, elles sont beaucoup plus facilement applicables au-delà du temps de la formation initiale. Alors, les référentiels de compétences informationnelles sont très très présents chez les anglo-saxons, mais également en France pour le secondaire. Ils font référence à un nouveau concept de qualification clé dans les sociétés modernes qui est lié au passage d'une économie de la connaissance à une économie de l'accès. Là, je vous renvoie à, par exemple, Michel Serres. C'est en lien, évidemment, avec la généralisation de l'informatique comme support de diffusion de la connaissance. Alors, on parle souvent d'un néologisme que j'aime pas trop, moi, qui est la littératie informationnelle, et qui se définit, si je simplifie, comme visant à maîtriser la culture de l'information. Et c'est en gros l'aptitude des individus et des groupes à faire le meilleur usage possible de l'information, à la fois un usage efficace, responsable des informations et tenant compte des conditions de leur production. Pour l'OCDE, la littératie informationnelle, c'est un enjeu de citoyen, ce n'est pas un enjeu d'étudiant. Donc c'est un concept large, à la base de l'accès au savoir et aux connaissances, pour la construction ou l'élargissement de ses compétences, mais aussi pour la maîtrise des difficultés dans la vie de tous les jours. Alors, je vais... Compte tenu, je regarde le temps et c'est quand même pas brillant, donc je ne vais pas beaucoup détailler cette question du référentiel et je vais passer un ou deux slides pour soulager Christophe. Voilà. Alors, si ce référentiel vous intéresse, Je ne gère pas le stock, mais je connais très bien le propriétaire du stock actuel. Je, compte tenu du fait que je venais à pied du Havre, je n'ai pas pu en amener avec moi. Si jamais vous en souhaitiez, n'hésitez pas à me contacter et je ferai en sorte qu'on vous en envoie. Il doit nous en rester à peu près 400 ou 500 exemplaires, la diffusion ayant été faite. Et on prépare pour l'année prochaine une version web de ce référentiel. Alors, intéressons-nous au troisième enjeu, alors qui pour le coup, d'ailleurs vous voyez que mon slide est beaucoup plus aéré, est pour moi un terrain totalement vierge et sur lequel je souhaite désormais concentrer une bonne partie de nos actions. Ce sont, et je les ai agrégés ensemble, même s'ils ne sont pas tout à fait des publics de même nature, les publics de la formation continue et le public extérieur en recherche d'auto-formation. Alors, les services de formation continue dans les universités ont différents statuts selon les établissements. Au Havre, il se trouve que c'est une composante à part entière, au même titre que l'UFR des sciences, l'UFR des lettres, l'IUT, etc. Mais pour autant, dans l'immédiat, ces effectifs sont très réduits, puisque ça représente chez nous 165 inscrits dans une université de 7000 étudiants. Alors pourquoi je pense que c'est un enjeu important pour nous ? C'est parce qu'à l'heure où les universités recherchent désespérément de nouvelles sources de financement, les services de formation continue sont identifiés comme des acteurs clés du développement ou du rétablissement. Dans le cas de mon établissement, ça va plutôt être le rétablissement de l'état des finances des universités. Pourquoi ? Parce qu'ils sont particulièrement capables de générer des recettes provenant du secteur industriel, comme d'ailleurs des opérateurs de formation, à commencer par la région. Mais en réalité, si on veut avoir un schéma, une vision, on va dire, aussi complète que possible de ce public potentiel en recherche de formation professionnelle, pour moi, il faut agréger tout ou partie des inscrits extérieurs dont les motivations sont la plupart du temps professionnelles. On vient rarement, en tout cas pour l'instant, à la bibliothèque universitaire pour des questions de loisirs. Alors, ces inscrits ont chez nous un statut étrange et je pense qu'il faudra qu'on résolve cette question. On appelle ça les lecteurs autorisés. C'est-à-dire que c'est dans le autorisé, j'entends un peu toléré. Alors que pour moi, c'est vraiment un enjeu de territoire aujourd'hui de fidéliser et de capter ce public. Quand je suis arrivé pour prendre la direction de la bibliothèque universitaire du Havre, en fait, il n'y avait quasiment plus de lecteurs autorisés pour des questions très techniques et comptables, parce qu'on demandait à chaque lecteur extérieur, de peur qu'il nous vole nos livres, ce que ne font jamais les étudiants, de payer un chèque de caution qui était assez élevé, de presque 100 euros. Et la loi restant la loi et l'agent comptable restant l'agent comptable, il avait été imposé d'encaisser les chèques pendant l'année d'exercice de la personne. Donc autrement dit, on fait déjà payer là où au Havre l'inscription à la bibliothèque municipale est gratuite. On demande à chaque lecteur extérieur d'acquitter le même tarif que les étudiants, c'est-à-dire un peu plus de 30 euros. Mais il devait en plus confier pendant un an à la comptabilité publique un chèque coquet de 90 et quelques euros. Donc autant vous dire que les volontaires ne couraient pas les rues, donc il m'a fallu 2 ans pour convaincre et menacer notre agent comptable, qui est d'ailleurs parti dans l'établissement, se réfugier dans l'établissement de Christophe. Et désormais, il n'y a plus de chèque de caution.
Il est très bien maintenant.
Désormais, il n'y a plus de chèque de caution et les inscrits, le nombre d'inscrits est remonté assez notablement. Et je pense qu'on a de grosses marges de progression. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nos inscrits extérieurs, c'est 650 inscrits, ce qui représente à peu près 10% de notre public. En revanche, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, j'ai regardé avant de venir quels étaient dans cette part d'inscrits les usagers actifs, c'est-à-dire ceux qui concrètement nous empruntent des livres. Et là, j'ai failli ne pas venir, parce qu'en fait, il n'y a que 130 de ces lecteurs qui sont des usagers inscrits. Alors, pour vous donner un ordre de comparaison, du côté des étudiants, On a, la quasi-totalité des étudiants sont inscrits chez nous et en usager actif, ça représente plus de 2/3 des inscrits. Donc on a vraiment une différence extrême. Alors, comment on l'explique ? Je vous ai mis qu'on avait des atouts pour attirer ces lecteurs extérieurs, les lieux, les services, les collections, mais ce n'est pas une faute de copier-coller, ce sont aussi nos faiblesses. C'est-à-dire que on sait très bien définir une politique documentaire par rapport à nos étudiants. On sait sur quels outils s'appuyer, les maquettes de diplômes, interroger les enseignants, etc. Les lecteurs extérieurs, on n'a aucun levier pour le faire. Donc, l'offre documentaire pour les lecteurs extérieurs, c'est une offre par défaut. C'est à eux de s'adapter à nos collections, là où on ne cesse de progresser dans la volonté d'adapter nos collections à nos usagers premiers, qui sont les étudiants. Donc je ne sais pas encore comment ça peut se résoudre, mais pour moi, un des travaux qu'on devra faire, sans doute par des techniques d'enquête ciblées, de focus group éventuellement, c'est de mieux identifier quels pourraient être les besoins de ce public au regard de ce qu'on est en capacité de leur offrir. Alors pourquoi ça m'intéresse, ça ? Pour deux raisons. L'autonomie des établissements inscrit ces établissements désormais dans le même territoire que vous. Nous dépendons beaucoup plus qu'avant des collectivités, beaucoup moins qu'avant de l'État. Donc, si nous ne justifions pas auprès des collectivités de notre contribution au développement du territoire, compte tenu de ce que coûte l'entretien d'une bibliothèque universitaire, nous ne tiendrons pas longtemps. Deuxième enjeu propre au Havre, on travaille en très bonne intelligence avec la bibliothèque municipale, qui a eu besoin ces dernières années de développer son offre de lecture publique aux dépens de son offre dite d'études. Ça s'est fait de manière assez concertée, et même si pour l'instant il n'y a rien de formalisé, nos politiques de développement des collections s'interpénètrent pour faire en sorte que la bibliothèque universitaire du Havre, qui est située à 10 minutes, un quart d'heure maximum à pied de la bibliothèque municipale, la centrale, et qui est une bibliothèque de centre-ville, fournit aujourd'hui les besoins en documentation d'études pour ce qu'étaient les lecteurs fréquentant massivement la section études de la bibliothèque municipale. Alors, j'en veux pour preuve le fait, et ça ne réjouit pas totalement mon équipe, on a par exemple complètement récupéré le public des lycéens, qui avant était totalement focalisé sur la bibliothèque municipale et qui aujourd'hui est un public particulièrement présent chez nous. Et puis, je vais finir là-dessus, un lieu, ça ne suffit pas. Alors, il se trouve qu'au Havre, on a la chance pour la bibliothèque universitaire d'avoir, je le dis, j'en suis pas fier du tout, c'est pas moi qui l'ai faite, d'avoir une des plus belles bibliothèques universitaires de France. C'est pas la seule, parce qu'il y a eu des très belles constructions ces dernières années. Et surtout, une bibliothèque du 21e siècle, construite au tout début de ce siècle, et qui est entièrement orienté vers le numérique, qui est à la frontière entre un espace domestique et un espace public, et qui surtout a des espaces ouverts, flexibles, lumineux, confortables, et qui nous permettent, ce qui n'arrive jamais en bibliothèque universitaire, je vais vous faire un aveu en espérant que ma communication n'est pas enregistrée. Quand j'étais étudiant, j'ai attendu d'arriver en licence. À l'époque, il y avait des DUG, hein, donc il fallait passer déjà le DUG. J'ai attendu d'être en licence pour oser rentrer dans la bibliothèque universitaire, qui était Lyon 3, parce que je suis lyonnais d'origine. Et tellement, à la fois, le lieu, les bibliothécaires et les catalogues me terrifiaient. Donc j'ai été très puni, puisque j'en ai fait mon métier. Mais c'est très frappant de voir à quel point les lycéens qui rentrent à l'université s'approprient en quelques jours ce bâtiment et en font vraiment le leur. Simplement, un beau lieu, ça ne fait pas tout. Là, vous avez les images de concours des architectes qui l'ont construite. Et puis, voilà le vrai. Voilà l'atrium, donc ce que voient les étudiants en entrant dans le bâtiment. Des étudiants studieux sur des ordinateurs qui sont situés au rez-de-chaussée. C'est un espace flexible, donc c'est des ordinateurs qu'on retire quand on fait des expositions. Voilà, des salles extrêmement bien équipées avec un mobilier. La quasi-totalité des places de lecture sont électrifiées. Sur 900 places assises, il y en a 350 qui ont des prises informatiques physiques et l'ensemble du bâtiment est Wi-Fi. Et des salles de travail en groupe qui sont en quantité assez importante sur l'ensemble du bâtiment. Donc on a une infrastructure qui pourrait séduire, sauf que quand on a ouvert en 2006, je le rappelais à des collègues avec qui j'ai dîné hier, nos chiffres de fréquentation entre l'ancien réseau avec des bibliothèques inadaptées, vétustes, petites, 400 000 entrées par an, on était passé à moins de 200 000 entrées par an après ouverture avec un bâtiment de cette qualité. Alors aujourd'hui, on a quasiment rattrapé notre retard, on est entre 300 et 350 000 entrées par an, mais on l'a fait non pas en valorisant le bâtiment, mais en mettant en place un ensemble de services et de services ouverts à une communauté et à des usages beaucoup plus larges que ceux de l'étude. Un fonds de DVD qui n'est pas qu'un fonds de documentaire, qui comporte des fictions, qui sont quand même pensées à l'intérieur de la politique de développement des collections chez nous, des prêts de PC portables, une extension d'horaire d'ouverture où on est passé de 48 heures hebdomadaires à 72 heures hebdomadaires, de 5 jours à 6 jours, des services plus que n'offre que la bibliothèque au sein de l'université, portée par la carte des étudiants. Tout ça a contribué non seulement à faire revenir et à fidéliser notre public, mais aussi à faire venir un public extérieur et à leur faire comprendre qu'on pouvait leur apporter des réponses à des questions très concrètes qui se posaient dans le cadre de leur exercice professionnel. Alors, la difficulté qui reste encore pour les bibliothèques universitaires, c'est que pour un public extérieur, c'est une zone totalement interdite, c'est à la limite du Pentagone. C'est-à-dire que j'ai très souvent, honnêtement, des gens qui, de l'extérieur, me disent « Mais monsieur, est-ce qu'on a le droit de rentrer ici ?» Pour nous, on n'a aucun complexe, on est une bibliothèque publique, elle est ouverte à tout le monde, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, et ça sera la partie finale et photo de vacances. Ce qui est notre, on va dire, cheval de Troie le plus important, c'est qu'on a opté pour une programmation culturelle extrêmement offensive, spectaculaire et professionnelle. Alors je vous montre ça, c'est pas du tout pour faire le malin. Je veux juste vous expliquer que les bibliothèques universitaires changent et que donc il faut aussi que vous changiez votre regard sur les bibliothèques universitaires. Parce qu'aujourd'hui, la proximité existe réellement entre vos préoccupations et les nôtres. On partage le même territoire et on a souvent la même vision professionnelle. Donc là, vous avez, c'est dans le cadre d'une de nos plus grosses manifestations qui s'appelle Une saison graphique et consacrée au design graphique contemporain. C'était une rétrospective Annette Lenz et Vincent Perrottet en 2010. Vous voyez que même si les étudiants ne veulent pas vous regarder, ils sont obligés de les voir. Donc c'était accroché sur 20 mètres de hauteur dans l'atrium. Là, c'est Frédéric Techner un an après. Donc on travaille sur des scénographies pour que les étudiants aient une autre perception de l'espace dans lequel ils passent tous les jours. Donc on mobilise des commissaires d'exposition, des scénographes pour qu'ils réinterprètent le lieu en fonction des œuvres qui sont exposées. Alors cette installation-là fait très mal aux épaules. Je peux vous dire que j'ai une épaule démise depuis que j'ai monté du placo plate sur 4 mètres de haut. Celle-ci était beaucoup plus reposante parce que j'avais beaucoup d'aide. C'est du bois recyclé chez Emmaüs parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et c'était une exposition magnifique sur un collectif de graphistes russes qui s'appelle Austin Gruppe. Ça, c'est Yona Vautrin, une excellente designeuse de la jeune génération, une ancienne assistante des frères Bouroulec, qui fait une intervention au Havre dans une cité étudiante, la cité des containers. Et du coup, on a fait une exposition et une rencontre avec elle qui a très, très bien marché. Et ça, c'est l'exposition en cours. Si vous avez envie de vous offrir un week-end au Havre, c'est tout de suite qu'il faut le faire parce que ça, on décroche, et c'est le cas de le dire, on décroche le 28 juin. C'est une exposition consacrée à Han Sang-soo, qui est un des grands maîtres du graphisme contemporain sud-coréen. Et donc, à chaque fois, on leur demande une installation spécifique pour la bibliothèque. Et il a produit ces grands laits de soie qui descendent du toit jusqu'au rez-de-chaussée. Et je finirai par une image qui sera mon image de l'année. Et comme vous êtes bibliothécaire, je tiens à la partager. Le monsieur que vous voyez de dos a été l'invité surprise du vernissage de Han Sang-soo, et c'est Massin lui-même, 89 ans, le concepteur de la collection blanche de Gallimard, de 100 000 milliards de poèmes, de la cantatrice chauve, etc., qui est venu juste par amitié pour Han Sang-soo. Et c'est, quand vous êtes bibliothécaire, c'est un choc ultime que d'avoir Robert Massin dans sa bibliothèque. C'est très improbable, et encore plus quand vous le ramenez dans votre voiture à minuit. Voilà. Merci, je suis désolé, je digresse, je bavarde. Et...
Donc, merci Pierre-Yves. Alors, tu es à moitié un bon publicitaire parce que tu ne dis même pas que le congrès de la DBU est en Wavre. Les collègues qui le souhaitent pourront visiter cette bibliothèque, puisqu'il faut rappeler que la journée d'études est ouverte à tout le monde et pas seulement aux membres de la DBU. Voilà, donc sans plus attendre, je me tourne vers ma droite et donc vers l'auto-formation à la BPI. Mais voilà, la question c'est est-ce que l'auto-formation est possible en bibliothèque ? C'est comme ça que les non-bibliothécaires ont envie de la poser. Nous, on a une petite idée de la réponse, mais je suis sûr que Angé va nous donner des arguments sur la réponse qu'on a envie de donner.
Voilà, ben bonjour. Donc, effectivement, la question qui m'était posée, c'était l'auto-formation est-elle possible en bibliothèque ? Alors, moi, je ne fais pas de PowerPoint parce que, Pierre-Yves a dit qu'il était bavard, moi aussi sur l'auto-formation, donc je ne prends pas le risque d'avoir des diapos parce que sinon, c'est encore plus long. Donc, je vais essayer de faire bref. Donc la façon la plus facile de faire bref, c'est de vous dire oui, effectivement, l'auto-formation est possible en bibliothèque. Je pourrais m'arrêter là, mais bon, quand même. Donc oui, elle est possible, et on va commencer un peu comme ça, malgré d'une part la très grande exigence de la démarche d'auto-formation. Alors là, je rebondirai un peu sur ce que disait Pierre-Yves. Nous, en tous les cas, à la BPI, et je pense dans les bibliothèques publiques, l'auto-formation ne va pas concerner le même type de public, ou en tous les cas, pas le même niveau d'études. Moi, je dirais que ce qui est le plus important, en tous les cas pour nous à la BPI, c'est plutôt l'auto-formation qu'on veut vers les publics de niveau inférieur au bac, c'est-à-dire en dessous, niveau 4, alors qu'on parlait de public universitaire de l'autre côté. Donc oui, c'est possible malgré la grande difficulté de la démarche, personnel, malgré la crainte des uns, les bibliothécaires ont un peu peur, de moins en moins, mais qu'on les assimile ou qu'on leur demande de faire un travail de formateur, ce qui n'est pas du tout leur travail et ce qui ne leur est d'ailleurs pas demandé finalement quand on fait de l'auto-formation en bibliothèque. Et puis malgré la crainte des autres qui sont les formateurs, alors à la BPI on a eu la chance de rencontrer beaucoup de formateurs. Ils défendent leur spécificité pédagogique et ils ne comprennent pas très bien, enfin disons qu'ils ne comprenaient pas très bien pourquoi ce que venaient faire les bibliothèques dans la formation, en tous les cas dans les colloques sur l'auto-formation. Nous, on a eu l'expérience à un colloque à Toulouse où nous intervenions avec Pascaline Blandin de la CSI pour présenter nos espaces auto-formation. Alors la CSI, la médiathèque de la Cité des Sciences. Et les gens nous ont dit, on est venu là dans cet atelier parce qu'on ne comprend pas pourquoi les bibliothèques veulent causer d'auto-formation, donc on vient pour découvrir ça. Et ça a été extrêmement intéressant et ça nous a permis, nous, d'essayer de travailler beaucoup avec des organismes de formation. Alors un petit peu moins là parce que... On a à l'auto-formation à la BPI une équipe renouvelée et un petit peu... restreinte cette année, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on refasse et qui est très important aussi dans le fait de faire de l'auto-formation en bibliothèque. Donc ensuite, oui, elle est possible en bibliothèque et je vais faire très vite parce que deux petites anecdotes qui me sont arrivées et j'ai envie de dire la preuve. Après, effectivement, si vous lisez les enquêtes d'Agnès Camus, par l'étude des recherches ou le livre de Serge Pogam qui vient de sortir sur des pauvres à la bibliothèque, vous verrez qu'effectivement l'auto-formation est possible en bibliothèque. Mais moi j'ai eu deux expériences. Ma belle-sœur qui était assistante sociale à la communauté d'Emmaüs de Redéné en Bretagne, près de Lorient pour ceux qui connaissent, a vu un jour arriver quelqu'un directement de Pologne, une personne un peu complètement paumée avec son vélo et son chien qui ne parlait que polonais. Donc, vous imaginez un petit peu la difficulté. Et donc, elle a, à la cantonade, elle a dit, ben, il n'y en a pas un qui parle polonais ici. Et il y en a un qui lui a répondu, si, moi. Quand j'étais clochard à Paris, je suis allée à la BPI pour me réchauffer, pour m'occuper, et j'ai appris des langues, et j'ai appris le polonais. Et il a fait là, le lien avec ce polonais qui venait d'arriver. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup frappée. Et la suivante est du même type, c'est-à-dire un jour dînant chez une amie à Dijon, avant d'intervenir sur l'auto-formation, elle hébergeait un jeune Kosovar qui faisait un stage. Et quand j'ai dit que je travaillais à la BPI, j'ai vu le visage de ce jeune s'éclairer. Il m'a dit, mais vous savez, la BPI, pour moi, quand je suis arrivée du Kosovo avec mon jean, mon pull et mes chaussures et pas grand-chose d'autre, eh bien, on était recueillis la nuit et puis on nous lâchait dans Paris. Et j'ai très vite su qu'il fallait aller à la BPI et j'ai appris le français à la BPI. Donc voilà, l'auto-formation, tout au moins en langue, enfin, surtout peut-être même en langue et quand c'est vital, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait possible en bibliothèque. Alors, je vais essayer d'aller vite en résumant, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui connaissent l'espace auto-formation de la BPI. Et puis la BPI a un côté, entre guillemets, exemplaire par la taille de son espace, par les moyens qu'elle peut mettre à la disposition de l'auto-formation. Mais elle n'est pas la seule, il y a eu d'autres précurseurs. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la fondation de la DDNB avec les bibliothèques, avec des bibliothécaires de Lorient, d'Issy-les-Moulineaux, de Grenoble, de la CSI. Donc, la BPI n'a pas l'exclusive de la création d'auto-formation en bibliothèque. Mais c'était un pari, en fait, en 77, à l'ouverture de la BPI, un pari, faire une médiathèque de langue à côté des documents de littérature pour apprendre les langues en autonomie. Et immédiatement, le public s'est attribué cet espace. Il s'est approprié et puis ensuite il y a eu un espace Logitech et puis je vous passe la façon dont ça s'est passé. En 2000, un grand espace auto-formation mélangeant les langues et les autres savoirs et pareil, une appropriation immédiate par le public de cet espace. Alors, voilà, mais qu'est-ce que c'est que l'auto-formation ? Qu'est-ce que c'est que l'auto-formation dans la BPI ? On a constaté que l'auto-formation, quel que soit le public, c'est quand même toujours une démarche active. C'est-à-dire qu'on a été à l'école, on a, entre guillemets, pour certains, subi l'enseignement. Là, on va passer dans le rôle passif, entre guillemets, de former, à un rôle d'apprenant. Et c'est un choix qui est personnel, qui peut être par nécessité. Qui demande l'autonomie dans l'apprentissage, le choix de ces modules de formation, le rythme de travail, l'accompagnement, on n'en veut pas. Et il y a toujours un objectif, même si c'est seulement d'être à l'abri dans la bibliothèque au chaud, parce qu'il y en a du public SDF qui vient là pour être à l'abri, pour se réchauffer, mais qui en profite finalement pour occuper son temps et garder un petit peu de lien social. Ça, c'est très bien. Enfin, je vous encourage à lire le livre de Serge Postgam sur des pauvres à la bibliothèque, parce que c'est vraiment le fruit de cette enquête, c'est très intéressant. Alors, pourquoi se former à la BPI ? Parce que c'est un lieu ouvert à tous, gratuit. Alors, ce n'est pas toujours le cas des bibliothèques municipales, encore qu'on peut rentrer dans une bibliothèque sans décliner, sans s'inscrire et sans décliner son identité, ça c'est extrêmement important pour nous à la BPI, sans formalité. On peut se fondre un peu dans la masse, on n'est pas forcément visible. Il y a à la BPI des collections riches et des outils informatiques pour travailler et l'informatique vous assure la neutralité. Hein, vous pouvez faire répéter 20 fois un ordinateur, il ne vous dira rien, ce qui n'est pas forcément le cas d'un enseignant. On vient aussi se former dans des conditions favorables, c'est-à-dire que l'espace est fait de telle façon qu'on est un peu isolé ou qu'on peut s'isoler si on veut, mais on est aussi au milieu d'une communauté, d'un voisinage qui peut aussi vous encourager à travailler. Souvent le public de la BPI, j'y reviendrai un petit peu plus après, c'est quand même un public souvent assez défavorisé en recherche d'emploi, donc avec tous les problèmes de pas de travail, donc désocialisation. Et finalement, le fait de lever le nez et de voir les gens travailler ou de pouvoir discuter avec les voisins, c'est très important. Et je pense que ça touche énormément notre public. Donc le public, on le connaît assez mal, on va y retravailler là, mais on ne le connaît pas forcément toujours. La première connaissance qu'on en a eue depuis 2000, c'est la connaissance intuitive des collègues qui sont au bureau d'accueil. Et là, c'est un public fidèle qui est très déterminé, un peu obstiné. On vient prendre une heure de réservation, puis une deuxième, puis une troisième, qui connaît des grands moments de découragement et qui surtout, sans qu'on leur pose franchement la question, semble totalement en dehors de tous les circuits de formation offerts aux adultes. Alors, d'après l'enquête de 2005 d'Agnès Camus, qu'on avait fait faire pour un colloque auto-formation et bibliothèque, évidemment, une très grande partie du public, ça c'est la BPI, ça existe aussi dans d'autres bibliothèques, mais pour nous c'est vraiment extrêmement important du point de vue des chiffres, ce sont les migrants, les étrangers, donc on a vu passer toutes les vagues successives de migration. Les dernières, pour ne prendre que les dernières, il y a énormément de migrants d'Afghanistan, d'Irak, Asie du Sud-Est, Bangladesh, très souvent, des Tibétains. Alors, pour ce qui est des premiers que j'ai cités, c'est souvent essentiellement des hommes. Les Tibétains, c'est des familles, très souvent. Et qui arrivent à la BPI par le bouche à oreille, c'est-à-dire pour les Afghans, la période où ils arrivaient, ils couchaient ils dormaient dans les squares du 10e arrondissement. Très, très rapidement, on leur disait « va à Rambuteau, tu vas pouvoir apprendre le français ». C'est un responsable d'une école de langue qui nous a dit qu'il avait mis du temps à comprendre que Rambuteau, c'est pas évident, c'est la station de métro, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était la BPI. Et donc, c'est vrai qu'on a vu arriver, un week-end, on a eu 32 ou 33 personnes comme ça qui arrivaient, qui ne parlaient pas un mot de français. Et du coup, ça nous a aussi obligés à créer de nouveaux services, finalement. Donc, on reparlera un petit peu plus tard. Et parmi ces migrants, alors l'envie et la nécessité vitale d'apprendre, c'est pour ça que je dis que pour apprendre le français, c'est vrai qu'il y a la nécessité vitale qui est importante, et d'apprendre même s'ils n'ont pas eu de formation initiale chez eux. On a quand même eu un témoignage d'un Afghan qui nous a dit qu'en 3 ans, il avait appris à lire et à écrire en français et dans sa langue maternelle. Donc ça aussi, c'est très important comme expérience. Ensuite, les autres usagers... souvent ce sont des gens en situation précaire, des gens en recherche d'emploi ou en qui veulent se perfectionner pour trouver un emploi un peu meilleur, souvent aussi des femmes qui se retrouvent en situation précaire et qui veulent rester dans le coup. Ils n'ont pas choisi l'auto-formation, ça s'est un peu imposé à eux, c'est un peu faute de mieux, c'est-à-dire que s'ils pouvaient participer à un cours, à une formation autre que les formations gratuites qui sont souvent pas très approfondies, s'ils pouvaient être pris en charge par un APP, par un organisme de formation, vraisemblablement ils préféreraient, parce qu'il y a quand même l'appui d'un formateur, c'est très important. Mais pour eux c'est un lieu de recours et c'est aussi... on a aussi de très nombreux témoignages dans ce sens. Ensuite, il y a des gens qui viennent en complément d'une formation, par exemple de bureautique à la ville de Paris, mais qui n'ont pas d'ordinateur chez eux ou qui n'en ont pas forcément l'usage parce qu'ils sont plusieurs dessus. Donc ils viennent à la BPI juste utiliser nos ordinateurs pour faire leurs exercices. Ça, c'est très important. Et enfin, les nouveaux autodidactes, donc des gens qui disent non, moi j'ai pas envie de faire des formations. Alors ça, c'est plutôt un niveau au-dessus du bac, hein. J'ai pas envie de me mettre dans un cours de formation parce que je vais aller plus vite, je vais aller moins vite, il faut que je rende des comptes au prof. J'ai envie de me débrouiller par moi-même. Et ça, on en a quelques-uns et ils viennent pour le plaisir. Et c'est aussi ça fait partie de la diversité du public qui fréquente l'auto-formation et qui se croise régulièrement dans notre espace. Alors, les professionnels dans cette démarche d'auto-formation dans une bibliothèque. Alors, on peut parler de nos collègues qui se relaient au bureau d'information. Ils sont souvent très passionnés. Après quelques inquiétudes au début, en se disant « oh là là, ça va être un peu difficile », c'est un bureau d'auto-formation, un bureau d'information auquel on s'attache, même si on est inquiet, même si on veut bien repréciser qu'on n'est ni formateur, ni prescripteur, ni évaluateur, surtout pas évaluateur, et pas des assistants sociaux non plus, mais qu'on est là pour faciliter la démarche pédagogique, pour aider à trouver un parcours pédagogique. On est vraiment plutôt dans le médiateur-facilitateur. Et on voit bien que nos collègues sont toujours prêts à aider, enfin, à aider la personne en difficulté ou la personne qui va vous poser une question, mais on n'a pas tous la même limite, on ne s'arrête pas tous au même endroit dans l'aide aux personnes qui nous le demandent. Dans les gens qui interviennent aussi sur la formation, alors pas à la BPI, à l'extérieur, mais les formateurs, on a beaucoup discuté avec des formateurs, ce que je vous disais, réticents au début, aux premières rencontres, on a beaucoup travaillé avec des formateurs, et en fait, ils se rendent compte que ça vient en complément des formations, et qu'en plus, les bibliothèques vont toucher un public qui n'est pas dans les circuits traditionnels de formation. Pour être dans un circuit de formation, il faut avoir soit un stage par Pôle emploi, soit un stage par son employeur, soit un financement régional ou municipal, ou un financement d'entreprise. Et à la BPI, nos publics, ils n'ont pas les financements. Donc, on n'est pas en concurrence avec les formateurs. Et on ne fait pas de mal aux éditeurs, entre guillemets, parce que... ils sont très inquiets, les éditeurs. Ils disent « Oh là là, mais si on donne du e-learning dans une bibliothèque, tout le monde va en faire. » Non, tout le monde ne va pas en faire. Et on n'est pas concurrent non plus. Même, c'est la même chose par rapport aux organismes de formation. Personne ne fera, à l'exception peut-être du français, une formation de A à Z dans une bibliothèque. Il y a un moment où il faudra, de toute façon, passer par quelque chose de plus structuré, passer par une validation. Donc, que les éditeurs se rassurent. Les bibliothèques ne vont pas les ruiner, et d'ailleurs c'est pour ça que maintenant on en voit de plus en plus qui travaillent avec le CAREL pour donner des tarifs qui permettent aux bibliothèques d'atteindre de proposer leurs services. Donc parler très très vite des collections. Les collections, en fait, la collection d'auto-formation de la BPI, mais je pense que c'est très important dans d'autres bibliothèques, qui doivent vraiment permettre une pratique, hein. Donc interactivité, etc. Et des approches pédagogiques très différentes, à des niveaux différents. Il y a plusieurs façons d'apprendre la règle de 3. Il y a plusieurs façons d'apprendre le français ou d'apprendre une langue étrangère. On a encore un grand débat à la BPI. Est-ce qu'il faut proposer les outils type bain linguistique, pour ceux qui connaissent les méthodes Rosetta Stone, ou au contraire faire une méthode plus classique avec apprentissage de la grammaire. Même entre nous, dans le service, on n'est pas d'accord. On propose tout. Moi, personnellement, j'ai ma petite idée. Je pense quand même que pour les adultes, le bain linguistique, c'est ce qui marche le mieux. Mais voilà, il faut vraiment essayer de proposer plusieurs approches. Évidemment, à la BPI, jusqu'à maintenant, on a les moyens de pouvoir effectivement proposer une collection très importante. Une autre question importante, c'est la question du lieu. On nous dit souvent, bah oui, mais à la BPI, vous avez un grand espace, vous avez des cabines isolées où les gens peuvent à la fois être dans la discrétion et dans le collectif. Dans une petite bibliothèque, on ne peut pas. Alors, effectivement, le lieu, il n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la façon dont il est aménagé. C'est-à-dire qu'on peut décider de faire des cabines d'auto-formation, enfin des lieux d'auto-formation à plusieurs endroits dans une bibliothèque. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un minimum de discrétion, de possibilité de discrétion pour l'apprenant, d'un aspect quelquefois un peu cocon, hein, c'est-à-dire pas être dérangé et puis pas être surveillé. L'avantage quand même de rassembler des cabines dans un même endroit, c'est que comme on a souvent des publics précaires et qui viennent à plusieurs, ben, ils se sentent bien. Donc voilà, c'est une discussion qu'il faut avoir, mais ce n'est pas indispensable d'avoir un lieu précis. En revanche, il faut exercer la médiation un peu plus qu'ailleurs. Avant de passer sur la médiation, parce que je pense que c'est quand même le plus important, je veux dire, bon, les usages chez nous, à la BPI, les outils pratiques, évidemment l'apprentissage du français langue étrangère, c'est l'essentiel. L'informatique, le code de la route, pour ceux qui font un peu d'auto-formation dans leur bibliothèque, je ne leur apprendrai rien. Et des outils d'apprentissage de l'informatique qui vont je vais vous donner deux exemples, hein, de Vodéclic, que vous avez d'ailleurs voir ici, qui sont des petites vidéos, 3000 petites vidéos sur des petits points informatiques qui sont accessibles à tout le monde et qui sont très rapides, à un éditeur comme les éditions ENI, qui ont vraiment l'apprentissage de la bureautique, et où là, effectivement, si on est vraiment très motivé, je pense qu'on peut partir de créer un tableau Excel à faire un tableau croisé dynamique. D'accord. C'est toujours le temps. Donc, en fait, le plus important, c'est surtout une auto-formation, l'auto-formation dans la bibliothèque. Ça ne peut pas se faire sans médiation. La médiation, elle est indispensable. D'abord, il faut des outils documentaires assez simples. Hein. C'est pour ça qu'à la BPI, on a évidemment le catalogue général de la BPI, mais dans notre espace, il y a un accès qui est plus ciblé, d'abord sur les outils de l'espace, et deuxièmement avec un accès par thème, par thématique, et non pas par interrogation, enfin, par interrogation, par mot, oui, bien sûr, mais aussi par thématique, c'est-à-dire si on veut faire réviser Excel, on clique sur bureautique, traitement, tableur, pardon, et on va tout de suite arriver à ce qu'on veut. On va avoir le code de la route qui va sortir en premier sur notre liste thématique, c'est-à-dire des choses qui soient relativement simples. Ensuite, des bibliothécaires qui soient effectivement motivés et qui savent que il faut, dans un espace comme ça, il faut apporter une certaine aide aux gens qui sont là, mais qu'on n'est pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas des prescripteurs, pas des évaluateurs, surtout pas, mais des médiateurs, des facilitateurs de parcours pédagogique. C'est vraiment le terme qu'on avait retenu avec les collègues justement dans ce fameux colloque de Toulouse où on a travaillé avec des formateurs. Il faut aussi savoir répondre au lecteur qu'on ne peut pas lui conseiller une méthode idéale pour lui, qu'il y en a plusieurs, et qu'on ne peut pas décider à sa place, qu'il faut qu'il essaye, qu'il puisse butiner un petit peu sur nos documents, qu'il panache son apprentissage. Et il faut donc être toujours à l'écoute. Alors, comme notre espace est grand, nous, on s'astreint à se déplacer dans l'espace et à répondre. Et c'est là qu'on est happé, où on nous pose des questions en nous disant j'arrive pas à faire mon tableau, j'arrive pas à être. Parce que c'est aussi un public qui n'est pas toujours demandeur, hein, pas demandeur en tous les cas, pas forcément en public à un niveau de bureau d'information. Et puis du coup, on a créé des services d'accompagnement pour ces publics. Alors le premier, celui qui est effectivement en temps et en action le plus important, on a créé d'abord un parcours pédagogique qui s'appelle Premier pas en français. Ce n'est pas vraiment un parcours, c'est une liste de documents qui permettent d'apprendre le français quand on n'a aucune notion. Et dedans, il y a des sites, évidemment, ou des CD-ROM payants, mais il y a aussi des sites gratuits, et il ne faut pas oublier aussi que pour monter un espace auto-formation, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le gratuit sur Internet. Il y a beaucoup de choses et qui sont très bien faites. Donc, quand on a fait cette proposition, premier pas en français, et avec l'afflux des migrants, des Afghans, il y a 4-5 ans, on a décidé d'ouvrir la BPI le jeudi matin à des associations qui accompagnent ces migrants avec leurs formateurs. On forme les formateurs à nos outils et on les accueille pour qu'ils apprivoisent le lieu et qu'ils puissent revenir tout seuls en le connaissant un peu mieux. Parce que donc, Il y en a beaucoup qui viennent tout seuls, mais là, on connaît un petit peu mieux le lieu. Donc, ensuite, beaucoup de services type atelier. Donc, alors, évidemment, les ateliers de conversation qu'on avait commencé il y a très longtemps en espagnol pour le personnel, parce qu'on avait une collègue bilingue, et puis qu'on a donné au public. Puis, des ateliers en français langue étrangère, assurés par les bibliothécaires. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Ce sont vraiment des ateliers. Il est hors de question de faire des cours, hors de question même de corriger une formule française, sauf si la personne vous dit « je le dis pas bien », donc là, effectivement, on rectifie, et où on parle de tout et de rien, où on fait soit un tour de table qui dure une heure et quart, ce qui m'est arrivé la dernière fois, ils nous ont parlé de la façon dont ils avaient appris les langues, soit un sujet précis, et qui ont le grand intérêt à la BPI, c'est qu'ils sont vraiment complètement internationaux. On a fait un atelier sur les dictons météo et j'ai demandé aux gens de se présenter en disant le temps qu'ils faisaient dans leur pays et on a balayé tout le planisphère. Voilà. Ensuite, des ateliers, sur le même principe des ateliers informatiques avec des thèmes réseaux sociaux, créer son blog. Sur le même principe, mais avec des intervenants extérieurs, des ateliers recherche d'emploi, donc toujours thématique avec inscription. Et puis, une autre chose qui nous paraît très importante et qu'on va développer, c'est quelque chose qu'on appelle les déclics. Alors, pour le moment, ça n'a été décliné que sous forme de déclic informatique à titre expérimental pendant un an. C'est en fait, on se met à disposition à une heure précise du public et on répond à des questions précises. Donc là, c'était un informaticien qui répondait à des questions précises à une ou deux personnes. On voulait faire ça en appelant ça déclic démo, mais c'est pas encore bien. On n'a pas encore trouvé vraiment tous les noms de nos déclics, mais comment aider quelqu'un en situation d'urgence pour une rédaction. C'est même pas à faire appel à un écrivain public, c'est quelquefois vous trouvez quelqu'un qui est en train d'écrire une lettre à un juge ça m'est arrivé à un juge pour récupérer un garde d'enfant ou une chose comme ça. Le besoin, il est immédiat. Donc, faire des permanences comme ça, où on puisse aider les gens très rapidement. On est en train d'imaginer, puisqu'on est en plein projet d'établissement, d'autres déclics. On va en décliner plusieurs. Donc, voilà. Mais donc, une très grande, très grosse activité de médiation. Donc voilà, ça tombe bien parce qu'il me reste une minute. Donc j'arrive à ma conclusion, c'est-à-dire je vais vous redire ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que oui, l'auto-formation en bibliothèque, elle est possible. C'est pas si, elle est même indispensable à l'heure de la formation tout au long de la vie, à l'heure où on changera de métier, où nos enfants changeront de métier plusieurs fois dans leur vie, où ils auront besoin de se recycler, nos enfants et d'autres, tout le monde aura besoin de se recycler, d'apprendre des choses nouvelles. Oui, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va impliquer effectivement peut-être un changement, non pas de métier, mais de priorité des bibliothécaires. Et c'est une chose qui est d'autant plus importante qu'il y a beaucoup d'exclus, il y a de plus en plus d'exclus du système. Alors je voudrais juste vous citer en finale ma dernière expérience sur l'auto-formation, je ne sais pas s'il est dans la salle. Raconté quand, je crois que c'était en 1982, j'ai pas bien revu le temps. À la BU Sciences de Rouen, j'ai vu débarquer un jeune qui avait arrêté juste avant le bac et qui était donc dans les premiers processus de TUC, qui est arrivé à la BU et qui a fait le premier TUC et qui a fait une formation en bibliothèque. Il est aujourd'hui conservateur, directeur de la bibliothèque de l'INSA de Rouen, et il écrit dans l'introduction de son mémoire, et je trouve que c'est très, très... Donc c'est Joël Carré, pour ne pas le nommer, qui a fait un mémoire INSIB, et il écrit « Parce que les bibliothèques ont été pour moi ces endroits où l'on peut savoir saisir ce qu'on appelle une deuxième chance. Il me semblait important d'apporter mon soutien modeste à ceux qui depuis des années seraient intéressés par quelques pistes pour bâtir cette offre, même dans des bibliothèques à budget limité. » Donc, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a on peut arriver même par de l'auto-formation et par une volonté à finir conservateur de bibliothèque et à se dire que l'auto-formation, c'est vraiment très, très important. Et donc c'est le mémoire de Joël Carré, et puis je vous ai cité le livre de Serge Pogam. Et je vous dis aussi, parce que bon, il faut le dire, il faut aussi travailler avec des partenaires. Ça, dès qu'on peut travailler avec des organismes de formation, les APP, Pôle emploi, mais ça vous le savez aussi bien que moi, puisque souvent vous êtes plus ancré dans un territoire que la BPI.
Merci beaucoup. Alors je suis sûr qu'il y a plein de questions, nous allons en prendre quelques-unes, peut-être pas toutes, on n'aura pas le temps, mais au moins quelques-unes.
Oui, Anne-Marie Quatre-Hommes, je travaille à la BU Sciences à Nice. J'ai apprécié l'exposé de Céline Lechaud sur son plan d'éducation globale et j'interroge Pierre-Yves Cachard en ce qui concerne l'aide de nos lecteurs, de nos étudiants qui sont en grande difficulté, puisque vous nous avez dit que 2/3 des étudiants étaient en situation d'échec. Ne pourrait-on pas inventer quelque chose comme un plan d'éducation global ?
Oui, non, les 2/3 étaient 2/3 de nos étudiants sont des usagers actifs, c'est-à-dire ont emprunté au moins un livre dans l'année. Hein. Le taux d'échec n'est pas de cet ordre-là.
En matière juridique, si.
En matière juridique, on est d'accord, oui. Mais il y a un processus d'élimination d'une cruauté totale sur les matières juridiques.
Donc alors des coûts qui sont vraiment regardés de très près, je veux dire, ça nous coûte très cher cet échec en matière d'enseignement, de locaux.
Oui, tout à fait. Mais pour moi, ça interroge la question de la nécessité de penser l'efficacité des finances publiques, mais réellement. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup frappé dans le plan licence, qui était quand même un plan global destiné à améliorer les parcours des étudiants en licence, la documentation n'avait pas sa place au départ. Et au final, elle n'a trouvé une place, et à la fois pour moi c'était une bonne opportunité, mais en réalité quand j'y réfléchis c'est pas satisfaisant, elle n'a trouvé une place qu'en termes de crédit complémentaire éventuellement, pour acheter plus de livres. Pour moi c'est pas un problème. C'est pas une question de nombre de livres qu'on achète, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait avec. C'est-à-dire, en gros, pour qu'un plan de type plan lecture fonctionne, il faudrait que les enseignants travaillent avec nous. C'est-à-dire que je pense très profondément, c'est pas parce que c'est mon métier, mais très franchement, si je croyais pas que j'étais utile, je ferais autre chose. Je pense profondément qu'aujourd'hui, on a perdu la relation de prescription entre les enseignants et les bibliothèques. Alors pour tout un tas de raisons, il y a des choses, je ne mets pas du tout les enseignants en cause, mais il y a de la routine qui s'installe chez certains. Donc on a des bibliographies qui ont quasiment connu le président Pompidou qui nous reviennent. Il y a d'abord l'émergence, y compris chez les enseignants, de digital natives, c'est-à-dire des gens qui ont fait tout leur cursus d'études sans jamais utiliser les bibliothèques. Et dans ce contexte-là, c'est un peu difficile de leur expliquer que c'est indispensable. Et il y a une pédagogie qui est une pédagogie descendante, qui va donc privilégier la photocopie, la prise de notes, etc., sans stimuler un effort du côté des étudiants. Donc, moi, vous avez tout à fait raison, je pense que le plan réussir en licence, il est encore à venir, mais j'ai parlé tout à l'heure de co-construction. C'est que je pense que ça ne peut aboutir que si à un moment l'ensemble des acteurs des universités prend conscience que chacun joue un rôle et doit prendre sa part dans l'accompagnement des étudiants. Effectivement, on a un devoir de réussite vis-à-vis de nos étudiants, et si même on prend cette question d'un point de vue cynique, un étudiant ça coûte très cher. Et donc comme ça coûte très cher et que c'est de l'argent public, on ne peut pas se satisfaire de statistiques. C'est vraiment. Mais pour moi, c'est un problème de mobilisation de l'ensemble des acteurs du terrain. Plutôt.
Par ailleurs, vous nous avez parlé de parmi vos lecteurs, une part de plus en plus importante de lycéens. Savez-vous ce qu'ils viennent faire à la BU ? Est-ce qu'ils viennent occuper une place assise? Est-ce qu'ils utilisent vos collections? En fait, ces lycéens sont des étudiants en devenir, oui, qui souvent arrivent à l'université. Qu'est-ce que vous leur offrez? Avez-vous des relations avec leur CDI?
Relativement peu, ça nous arrive. Hein. On a un certain nombre de... Je suis désolé, j'ai été terrassé par un coup de froid et j'ai un petit peu de mal. En fait, on a un certain nombre d'actions menées en collaboration avec des CDI et des enseignants de lycée, notamment dans le cadre de leurs dossiers. Quand les lycéens ont des dossiers à faire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, dans ces cas-là, une partie des séances se déroule chez nous. Mais objectivement, par rapport à la largeur du périmètre des lycées au Havre, on n'en touche pas énormément. Les lycéens viennent chez nous pour l'instant pour profiter du confort d'un lieu et pour avoir la sensation un peu grisante d'être déjà dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est un public difficile. Hein. C'est un public difficile pour nous parce que les étudiants sont déjà pas forcément en termes disciplinaires faciles tous les jours, mais entre guillemets, on les tient parce qu'on appartient à la même communauté. Ce qui est très difficile avec les lycéens, c'est qu'ils ont un rapport aujourd'hui, alors je caricature un peu, mais les groupes avec lesquels on a des problèmes ont un rapport compliqué avec l'autorité. Et nous ne représentons pas pour eux une autorité crédible, puisqu'ils nous échappent complètement. Donc les difficultés que j'ai aujourd'hui, c'est que moi je défends profondément cette ligne qui consiste à dire que si un jour je dois écrire sur la porte cette bibliothèque est réservée aux étudiants, je crois que je rentrerai en dépression très vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir un discours d'accueil des lycéens et leur dire que tant qu'ils sont lycéens, ils n'ont pas le droit de venir. Donc la position, elle est assez tranchée là-dessus. Mais par ailleurs, ce n'est pas moi qui affronte certains de ces lycéens dans les salles de lecture et je comprends tout à fait les réserves qu'ont une bonne partie de mon équipe là-dessus.
Enfin, je pense que majoritairement, ce sont quand même des élèves qui sont en classe prépa.
Non, pas chez nous.
Et qui ont souvent une double inscription université classe
alors,
prépa.
Alors, ceux-là, on n'a aucun problème et à les gérer, entre guillemets. Non, sincèrement. Parce qu'ils sont intégrés dans la communauté universitaire. La difficulté qu'on a, c'est surtout sur la période, on va dire, mai-juin. Où en fait pour les lycéens c'est le lieu parfait pour réviser, voilà. Mais en soi moi ça me gêne pas plus que ça, simplement honnêtement par exemple par rapport à la notion de silence ou respect des autres, c'est très compliqué de leur expliquer comment le lieu doit fonctionner vis-à-vis de ça. Et au niveau de l'utilisation des collections, oui c'est le cas en langue. Vous voyez, dans certaines disciplines, mais pour de la documentation généraliste, maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'offre documentaire à destination du public extérieur, c'est une offre par défaut. C'est-à-dire que c'est l'offre qui est pensée pour nos étudiants et nos enseignants-chercheurs. Donc, je trouve que c'est un effet totalement inverse d'une politique documentaire. C'est-à-dire qu'a priori, ça fait des années quand même qu'on a beaucoup avancé sur cette question-là. On travaille nos acquisitions pour faire en sorte qu'elles soient au plus près des besoins de nos étudiants. Pour le public extérieur, ils constatent ce qui est proposé aux étudiants et ils regardent si par hasard, il n'y aurait pas des choses qui pourraient les intéresser.
Excusez-moi, on va peut-être prendre d'autres questions.
Juste ajouter une toute petite phrase à ce que vient de dire Pierre-Yves, parce qu'à la BPI, les lycéens, nous, on est obligés, et je pense que c'est très bien, de faire vraiment une opération d'accueil spécifique des lycéens entre avril et juin. Les lycéens viennent parce que c'est un lieu. Alors, c'est pas forcément du tout les lycéens de prépa, c'est plutôt les lycéens des quartiers périphériques de Paris où ils n'ont pas beaucoup d'autres lieux pour travailler. Donc, on a tous les problèmes de discipline, effectivement. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut organiser des médiations avec ces jeunes, avec ces lycéens. D'abord, les accueillir entre guillemets, ne pas penser on ferme la bibliothèque aux lycéens, surtout pas, et puis essayer de travailler avec des collections. Donc nous à la BPI effectivement on a un certain nombre de documents qui sont spécifiques, enfin qui sont pas spécifiques d'ailleurs, mais que les lycéens peuvent utiliser On a un accord avec MaxiCours qui nous double notre nombre de licences entre avril et juin. Donc c'est pareil, c'est des publics. De toute façon, s'ils viennent là et qu'on ne s'en occupe pas, on aura des, si on ne propose pas des choses et des médiations, on aura des problèmes. Mais je pense que dans les grandes bibliothèques municipales françaises, c'est pareil. Hein, les lycéens doivent arriver dans les...
Aussi dans quelques BU qui sont ouvertes également aux lycéens. Oui.
Je complète la réponse d'Anne parce que honte à moi, il faut toujours rendre à César. Je n'y ai pas pensé quand vous m'avez posé la question. Bien sûr qu'on a essayé de copier en fait la démarche de la BPI qu'on avait repérée quand on a cherché des solutions. On a trouvé ça extrêmement intéressant. Et en fait, depuis l'année dernière, et effectivement, je ne sais pas si ça a un lien, mais l'année dernière, ça s'est un peu mieux passé. On repère dans nos collections, on a un certain nombre de manuels, vous savez, qui sont destinés à aider le passage de la passerelle du lycée aux universités, et qui du coup sont tout à fait adaptés à ce public-là. On leur a repéré ces collections, on a fait des fiches pour ça, et on a fait un accueil personnalisé un peu, où on leur expliquait pourquoi on était amené à imposer un certain nombre de règles à l'intérieur de ce lieu, quoi. Et... Oui, moi j'avais trouvé ça très intéressant ce que vous aviez mis en place.
Et cette année, on a des médiateurs en plus, extérieurs.
Je crois qu'il y a une question vers le centre.
Oui, Éric Thévenard, Maison d'huile de l'image et du son à Villeurbanne. Ma question se destine plutôt au service d'auto-formation développé par la BPI. Évidemment, dans une bibliothèque municipale, on rêve de pouvoir disposer de moyens aussi développés et d'une expérience aussi riche. La question que je me pose, c'est la formation continue du point de vue du personnel qui fait partie de cette équipe. J'imagine qu'il s'agit de volontaires pour la plupart. Est-ce que la BPI a prévu ou prévoit un plan de formation spécifique pour ses collègues qui sont confrontés à des demandes et à des publics spécifiques ?
Alors, la réponse en deux parties. Mon service de l'auto-formation, c'est des collègues qui ont demandé ce service par choix. On n'a pas vraiment de formation spécifique à la formation. C'est vrai que moi, j'ai rêvé pendant longtemps. Je ne sais pas si je pourrais l'accomplir avant de partir. De passer et de proposer à l'équipe de passer une semaine dans un APP. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les APP, c'est une pédagogie de la formation qui justement s'appuie d'une part sur une formation en présentiel et d'autre part sur une grosse partie en auto-formation et qui est rattachée à des Greta ou à d'autres organismes de formation. Et on a beaucoup travaillé avec eux dans les colloques. Et c'est vrai que moi, je pense que ce serait très bien pour le personnel de la BPI, mais ce n'est pas fait. Effectivement, dans les plans de formation, on n'a pas de choses spécifiques pour la formation. En revanche, alors, l'autre partie, c'est les gens qui interviennent au bureau de service public, au bureau de renseignement. Ce qui n'est pas la même chose, ça fait, on a 30 personnes dans la BPI, dans d'autres services qui travaillent avec nous au bureau d'information. Là, on fait une formation, on les invite par une formation à participer à tout ce qui est médiation et on insiste beaucoup sur l'aspect médiation dans cet espace. On insiste aussi dans les autres espaces de la BPI, mais là, peut-être un petit peu plus et peut-être un peu plus en disant attention, le public est beaucoup plus divers, le public de la BPI. Là, c'est les bacheliers en ce moment, mais c'est beaucoup des étudiants, tandis qu'à l'auto-formation, c'est un public extrêmement divers, pour lequel il faut vraiment quelquefois faire très attention, des gens en difficulté, des gens fragiles. Mais c'est une formation qu'on donne nous. Ensuite, pour les ateliers, on a décidé effectivement de faire les ateliers de conversation et de les faire au maximum par des professionnels. Parce qu'on avait commencé par l'espagnol et qu'on avait une collègue native d'Argentine et qu'en plus avait fait ça pendant des années en Argentine, donc voilà. Pour le français, ce sont des bibliothécaires. Pour les autres langues, ce sont des vacataires natifs, enfin locuteurs natifs. Et on a une collègue qui dans une vie antérieure a été professeure de FLE, peut-être qu'elle le redeviendra dans une vie postérieure, on ne sait pas, et qui donc nous a formés effectivement à la technique de l'atelier. Mais c'était une petite formation. C'est vrai que plus ça ira, plus peut-être il va falloir envisager des formations plus structurées, peut-être extérieures. À l'inverse, on a beaucoup participé, un peu moins ces dernières années, parce qu'on était un peu surbookés. Moi, j'ai participé pas mal à des formations de bibliothécaires sur l'auto-formation.
Peut-être une dernière question. Alors, s'il n'y a pas de dernière question, ma conclusion provisoire, ça sera que j'entendais nous ne sommes pas des formateurs, nous les bibliothécaires. En même temps, cette question de la formation tout au long de la vie interroge la part malgré tout de formateurs qui est en nous, au sens où effectivement nous ne sommes pas des enseignants, je dirais plutôt comme ça, nous ne sommes pas des enseignants, mais je pense qu'en tout cas on a là quelque chose qu'il faudra reprendre et développer dans la perspective du congrès 2014 dont on nous a annoncé hier, qui serait sous le signe de l'évolution de nos métiers. Et je pense que c'est une évolution de nos métiers qui est complètement transverse aux différents lieux d'exercice de nos métiers, hein, parce que, encore une fois, moi je crois ardemment à l'unité de notre profession, au-delà des faux clivages BU lecture publique, hein, et que effectivement là il y a matière pour un congrès 2014 tout à fait riche. Donc je vous remercie d'être resté aussi longtemps, et puis je remercie encore une fois nos trois intervenants.